Les rendez-vous santé d'Africa numéro 1, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
Deuxième partie de notre rendez-vous santé, je suis séropositive et je souhaite avoir un enfant, c'est notre sujet du jour. Être une femme séropositive n'est pas une raison pour renoncer à avoir des enfants grâce au traitement antirétroviraux. Aujourd'hui, l'espérance et la qualité de vie des personnes séropositives ont fortement augmenté depuis ces dernières années. Alors aujourd'hui en France, on peut pratiquement toujours supprimer le risque de transmission du virus à l'enfant seulement si la mère est bien suivie et qu'elle parle de ses projets d'avoir un enfant à son médecin qui saura répondre à toutes ses questions et qui saura bien l'orienter dans toutes ses démarches. Alors sachez qu'aujourd'hui en France, environ 1500 femmes séropositives accouchent chaque année d'un bébé qui ne sera pas infecté. On en parle avec notre invité, c'est le docteur Roland Tubiana. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous êtes aussi le président de l'ONG Soltis, une ONG de solidarité internationale qui contribue à améliorer la santé de tous en renforçant durablement les systèmes de santé. Vous agissez notamment en Afrique. Merci d'être avec nous sur le plateau de la radio africaine. Alors nous allons commencer, si vous le voulez bien, avec le témoignage d'une femme, donc d'une trentaine d'années. Elle est originaire de la Côte d'Ivoire. Elle vivait en Italie avec son mari. Ils ont eu deux enfants. Tout allait bien jusqu'à sa troisième grossesse en 2015. Au cours des tests classiques relatifs à cette grossesse, les médecins lui ont appris qu'elle était porteuse du virus VIH-Sida. On découvre son histoire puisqu'elle a accordé un entretien à Dineba Dembélé. On l'écoute, on se retrouve juste après.
Pas du tout bien, je voulais même m'en cacher pour pouvoir sauter la grossesse parce que pour moi j'allais contaminer mon enfant.
Vous voulez avorter par sécurité?
On m'a expliqué que l'enfant allait bien se porter, mais je croyais pas. Ça veut le début, c'est pas facile. Hein. Après, ils ont réussi à me convaincre.
Et c'est qui la première personne que vous avez informée?
Ben, j'ai appelé mon mari. Du tout, quand lui il a entendu ça, il a commencé à crier, il a commencé à taper sur la table et tout. Il m'a laissé, il est allé à la maison tout seul. Et dès qu'on est arrivé, il a dit c'est là, j'étais chez maladie, pouvait me tuer. Je suis allé coucher avec les gens. Toi, tu t'es pas fait dépister, hein? Tu sais pas ce que tu as.
Oui, parce qu'il refuse de se faire dépister.
Il a peur. Peut-être il a fait en cachette, je sais pas. Mais c'est moi qui l'accuse.
C'est lui qui a contacté votre famille en Côte d'Ivoire pour leur dire...
Oui, que je vais mourir bientôt. Que lui, il va faire un papier, il va récupérer les enfants. À peine je vais accoucher, il va prendre la petite. Parce que je vais mourir, il ne faudrait pas que je contamine les enfants.
Sauf qu'en Côte d'Ivoire, votre plus grand soutien, c'est votre mère, évidemment.
C'est ma mère.
Elle s'est inquiétée pour vous.
J'ai dû parler avec elle.
Vous l'avez expliqué.
De la rassurer. Après un mois, moi, j'ai pris un vol, je suis allée. Elle m'a vu même là. Elle était étonnée parce que ce que mon mari a dit, pour elle, j'étais mère.
Mais grave.
Et j'allais mourir. Parce qu'en Afrique, on dit les gens VIH, ils sont passés au mois, quoi.
Vous êtes venu en France?
Et j'ai dit non, non, non. Je suis pas malade. Pourquoi je vais rester là pleurer comme si je suis pas handicapé?
Déjà pendant votre grossesse,
moi,
vous avez.
Sous traitement déjà.
Pendant la grossesse, c'était. Trois matins, trois le soir. Voilà. Et ensuite, quand vous avez accouché de votre fille.
Moi, j'étais encore sur ce même traitement.
Sur ce même traitement-là.
Ça, un mois après, quand j'ai revu mon médecin, on a refait mon examen. C'est là qu'elle a décidé de changer mon traitement en une seule prise.
Oui. Et votre petite fille,
c'était un mois. Oui, rétrovie. C'était des gouttes, un sirop qu'on dose. Elle boit. Donc, elle faisait ça matin, 8h et 20h.
Après, c'est juste des examens tous les 3 mois.
Les examens, c'est la naissance. Oui. Là, pour voir les anticorps, tout et tout. Après, maintenant, c'est 2 mois. Maintenant, c'est 3 mois.
Oui.
Après, 6 mois. 8 mois et 18 mois.
Le moment que vous attendiez le plus?
Oui. J'étais trop contente. C'est juste là, ma vie champagne avec mes copines.
J'ai fait la fête. C'est là que vous avez décidé, encore plus qu'avant, que vous allez prendre la vie à bras le corps, mais surtout que vous allez penser à vous.
Parce que je vivais pas.
Oui.
Et j'avais plus du poids. Là, j'ai perdu 22 kilos.
Vous êtes belle.
Je me suis mise au sport, j'ai commencé à avoir une petite diététicienne. Et là, maintenant, ça va mieux. Je me plais moi-même.
Alors, tout d'abord, vos réactions après ce témoignage, docteur.
Merci, bonjour. C'est très important ce que dit cette femme parce qu'elle touche à plusieurs points fondamentaux pour améliorer la situation de ces familles, en fait, de ces femmes, de ces enfants et de ces pères. Hein. Il ne faut pas oublier les hommes dans cette histoire.
Ouais.
Elle pointe bien là les gros problèmes. Le premier, ce qu'il faut savoir, c'est que la transmission du virus de la maman à l'enfant, c'est le premier exemple de contrôle de cette transmission par des médicaments antirétroviraux, comme vous avez dit tout à l'heure.
Ouais.
Donc, en gros, je vais vous répéter peut-être tout à l'heure comment ça se passe. Il faut être suivi. Il faut être traité. Et après, quand on parle de vie normale, avoir un enfant pour un jeune couple ou pour une jeune femme, c'est tout à fait naturel. Alors, on a des freins à ça. Et ces freins sont bien montrés dans cet exemple. Le premier frein, c'est l'image et la représentation du VIH-Sida dans les esprits de tout le monde. des anciens, des nouveaux, des jeunes, des vieux dans notre société. Et pour modifier ça, quoi de mieux que l'image d'une maman avec son bébé, d'une maman qui est belle, comme on dit dans votre entretien, une belle maman avec un beau bébé dans les bras. Et ben c'est ça la réalité, c'est ça vers quoi on doit tendre. Et si on rajoute une belle maman, un beau bébé et un papa, on est dans un contexte d'apaisement par rapport au VIH. Pour vaincre ça, il faut modifier l'image et la représentation qu'ont beaucoup de personnes de cette pathologie, de cette infection virale. On imagine bien quelqu'un qui a un cancer, c'est le pauvre ou la pauvre, et quelqu'un qui a le VIH, c'est bien fait pour elle ou pour lui. Il faut briser ça. Il faut vraiment arrêter avec ça. Pour ça, il faut informer les gens.
Alors justement, cette représentation qu'on se fait de la maladie, alors que les choses ont beaucoup évolué, l'évolution des traitements qui permettent aujourd'hui de dire qu'une femme séropositive peut vivre des grossesses normales et avoir des bébés en pleine santé sous certaines conditions, comme vous venez de nous l'expliquer.
Absolument. La première condition pour avoir accès à la prévention de la transmission, prévention d'ailleurs de la transmission de la maman au bébé, mais aussi de la maman envers son partenaire sexuel ou son mari ou tous ses partenaires sexuels, c'est d'avoir accès aux soins. Et pour avoir accès aux soins qui sont très bien définis et que je peux vous expliquer en quelques mots, il faut être dépisté. Et donc le premier frein au contrôle de l'infection dans le monde, c'est vrai en France, c'est vrai en Afrique, c'est vrai en Asie, c'est vrai en Amérique, c'est de dépister les gens pour qu'ils aient accès à ces grands succès de la thérapeutique actuelle. Pour une jeune femme, se faire dépister, si elle est positive, va entraîner une mise sous traitement quasi immédiate, comme c'est dans tous les programmes dans le monde. Cette mise au traitement va faire que le virus va être contrôlé grâce à ces médicaments et grâce bien sûr aux soins autour de ces médicaments.
Oui.
Et si le virus est contrôlé dans le sang de la personne infectée, il n'y aura pas de transmission. Et j'insiste, pas de transmission si la maman est enceinte envers son bébé et pas de transmission envers les partenaires sexuels. Alors, tout ça va dans le sens d'un apaisement. Ce qui nous manque, c'est l'information et l'accès au dépistage.
Alors justement, le dépistage, puisque on vient de le voir avec l'histoire de notre auditrice, certaines femmes découvrent leur séropositivité au moment où elles sont enceintes. Alors elles sont nombreuses dans ce cas, docteur.
Oui, alors la grossesse, c'est un très bon moment pour dépister les mamans, puisque on imagine mal une maman souhaitant que son enfant soit malade. Et donc l'explication, c'est si on vous dépiste et que vous êtes positive, on va pouvoir prendre les mesures thérapeutiques qui feront que votre enfant sera en bonne santé, en tout cas pas infecté par le VIH. Donc c'est un très bon moment pour dépister, à condition d'avoir une proposition d'accompagnement et de soins derrière. Ceci fonctionne plutôt bien en France et plutôt bien dans beaucoup de programmes dans le monde. Reste qu'il faudra aussi dépister le futur papa.
Oui.
Et reste que plus on va dépister tôt, et si possible avant même la conception du bébé, plus on a de chances, plus on a de taux de succès thérapeutique. On a bien montré que si la maman était traitée efficacement et en continu avant même de faire son bébé, et qu'il suffisait de continuer ce traitement pour que le bébé ne soit pas infecté à la fin. On a des situations beaucoup plus difficiles. Le dépistage, par exemple, au moment de l'accouchement, eh bien, même si on vous dépiste au moment de l'accouchement, on va traiter le bébé d'une certaine façon qui va réduire de moitié la transmission. Donc il n'est jamais trop tard pour se faire dépister. L'idéal, c'est avant de faire son bébé. Et jusqu'à l'accouchement, ça vaut la peine de se faire dépister et d'avoir accès à des soins et des traitements pour la maman et pour l'enfant.
D'où l'importance de bien être informée. Hein. Les femmes séropositives ont besoin de savoir qu'il est possible de tomber enceinte. Alors, sont-elles suffisamment informées, docteur ?
Alors, celles qui sont suivies, qui sont dépistées, suivies et traitées, sont informées par les équipes médicales qui s'occupent d'elles et paramédicales. Ce qu'il faudrait dire aux auditrices si elles sont concernées par ce sujet, c'est qu'il ne faut pas hésiter, si vous êtes suivie, à parler de votre désir de grossesse.
Oui. Hein.
Le désir de grossesse, on a quasiment toujours une réponse, quasiment parce qu'on a la limite de l'infertilité ou de l'âge de la femme. Mais si vous êtes suivie par un médecin, une infirmière, qui que ce soit dans n'importe quel système de santé, que vous êtes VIH et que vous êtes traité, informez les équipes de votre désir de grossesse et après le cheminement sera apaisé et tout à fait réalisable d'avoir un beau bébé en bonne santé.
Alors justement, on parlait tout à l'heure du regard des autres, savoir qu'on est infecté par le VIH et décider cette démarche d'avoir un enfant, je pense que ça ne doit pas être aussi évident que ça pour une femme par rapport à la stigmatisation et au regard des autres.
Alors dans notre expérience, on voit quand même beaucoup de femmes infectées. Il y a beaucoup de problèmes avec le papa, en fait, ouais. avec l'homme du couple. Alors
on voit avec l'histoire qu'on vient d'entendre.
Exactement. Alors on essaye de travailler au dépistage des futurs papas, à l'accompagnement des futurs papas dans le suivi de la grossesse. C'est pas gagné, mais on fait quelques progrès. Ce que je disais au début, c'est très important, c'est d'apaiser cette histoire d'infection par le VIH. Alors, on va pas le faire en 2 minutes et en deux explications, mais par exemple, dans un village, si la maman, comme je disais tout à l'heure, est belle, en bonne santé, que son bébé est beau et qu'elle dit tout ça, mais j'ai le VIH quand même, alors c'est peut-être pas à elle de le dire, mais si ça se sait, ça va faire beaucoup plus de bien qu'une conférence internationale ou qu'une explication scientifique. On a les deux. On a le moyen, l'outil pour que la maman ne soit pas infectée et on a les exemples multiples et nombreux d'histoires qui se passent très bien.
Alors, est-ce qu'il y a aussi des risques de transmission du VIH de la mère lorsque la mère est sous traitement et suivie ? Est-ce qu'il y a un pourcentage de risque tout de même ?
Alors, on n'est pas dans des mathématiques, on n'est pas dans des systèmes organisés et justes. On est dans de la biologie, on est dans du comportement humain. Le plus gros frein à la les plus gros échecs qu'on a, c'est une prise en charge trop tardive.
Oui. Hein,
comme j'ai dit tout à l'heure, plus on prend en charge tôt, même si ça vaut le coup de prendre à tous les moments, plus on prend en charge tôt, plus on a de succès. Et l'autre, c'est, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire des antirétroviraux, mais comme vous le savez, on ne sait pas guérir du VIH. Et donc, la limite, c'est la prise du traitement. Hein, je viens de voir un compte-rendu de conférence, là où on montre bien que les mamans qui ont bien suivi leur traitement pendant la grossesse, qui ont un bébé négatif,
oui.
souvent, dans les 6 mois après l'accouchement, elles arrêtent leur traitement et le virus repart et on a un risque de transmission au bébé s'il y a allaitement, par exemple. Donc la limite de l'efficacité, elle est double. Elle est le timing, à quel moment on va commencer le traitement. Plus on commence tôt, mieux ça marche. Et elle est, bien sûr, le fait que la maman puisse prendre ses médicaments en toute sérénité et tous les jours.
Alors
sont nos deux limites, ouais, en fait.
Est-ce que le VIH a des effets indésirables sur le déroulement de la grossesse ?
Alors, le VIH pourrait avoir des effets indésirables. On a deux types d'effets indésirables. On a les effets liés à la pathologie, à l'infection par le virus. Et ça se contrôle très bien par le traitement. Et on a ce qu'il ne faut jamais oublier. Ça serait une grossesse sous médicaments. Donc, une grossesse à risque. Les médicaments ne sont pas anodins, ils peuvent avoir une certaine toxicité.
Oui.
Donc notre travail à nous, c'est de faire le plus de recherches possible sur les médicaments qui vont pouvoir être donnés à des femmes enceintes. Ça, on a des outils tout à fait efficaces et bien tolérés. Il peut arriver, je parle là aux femmes qui vont être enceintes et qui sont suivies par leur médecin, il peut arriver qu'on vous demande de changer votre traitement. Parce que nous avons des traitements que l'on connaît mieux pendant la grossesse.
Oui.
Et donc, on préfère que la femme prenne un traitement sur lequel on a des données pendant la grossesse que quelque chose de très nouveau sur lequel on aurait peut-être un risque de toxicité. Ça, c'est bien intégré. On a, suivant les pays, suivant les endroits dans le monde, on a des stratégies thérapeutiques adaptées. Il faut que tout le monde soit informé simplement. Donc, il y a un petit risque de toxicité, mais ça, c'est pour toutes les grossesses sous traitement, que ce soit un traitement de diabète, d'hypertension,
oui.
On a parlé beaucoup d'épilepsie. Toutes les femmes qui vont prendre un médicament pendant leur grossesse, il faut que les équipes soient informées, soit pour surveiller de la meilleure façon, soit pour adapter le traitement à la situation de chaque femme. Et ça, on sait très bien le faire.
Alors après, une fois que la grossesse arrive à son terme, l'accouchement, et on parle souvent, j'ai l'impression, d'accouchement par césarienne dans les cas de mères qui sont malades.
Alors, on va se mettre dans la situation d'aujourd'hui.
Ouais,
femme est dépistée, elle est traitée efficacement.
Ouais.
Ce qu'on appelle la charge virale, c'est-à-dire le virus circulant, est indétectable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de virus qui circule. Cette femme... C'est ce que je dis à mes collègues obstétriciens parce qu'on travaille en équipe. Hein.
Oui.
Cette femme, vous la considérez comme si elle n'avait pas le virus. Et donc, elle va pouvoir accoucher par voie basse. Et on a de plus en plus de ces situations-là en France où les femmes vont accoucher tout à fait normalement par voie basse, à condition d'avoir le virus contrôlé, donc à condition d'être dépisté, de prendre son traitement et qu'il soit efficace. Hein, c'est pas spontané, c'est un travail, mais tout à fait réalisable. Et donc la plupart des femmes accouchent aujourd'hui en France par voie basse. Après, nous avons les indications de l'obstétricien. D'accord. Si la femme a déjà eu 3 césariennes dans son histoire, on sait qu'elle va avoir une césarienne, parce que ça serait dangereux pour elle et le bébé. En tout cas, on est sorti de l'indication de césarienne à cause du VIH. Ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, la normalisation de la vie sous traitement. On est sorti de ça grâce au traitement. Les femmes peuvent accoucher par voie basse sans problème. Limite égale indication de l'obstétricien.
Alors après, comment est suivi le bébé? Quels sont les traitements?
Alors le bébé... Que la maman, le traitement du bébé va dépendre de ce qui s'est passé pendant la grossesse.
D'accord.
Si la maman était très bien suivie, indétectable, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'elle accouche par voie basse, le traitement du bébé maintenant est de 2 semaines avec un traitement, avec un sirop qu'on peut prendre en une fois par jour, par exemple. C'est un traitement qui correspond à ce qu'on appelle la post-exposition. En imaginant qu'il y ait quand même eu du virus qui passe pendant l'accouchement, on protège le bébé par un traitement après l'accouchement. Ce traitement, suivant la molécule choisie, il est de 2 semaines ou 4 semaines.
Oui.
Et après, on arrête le traitement du bébé. On surveille bien sûr le bébé sur la toxicité des médicaments et on le surveille sur le fait qu'il soit infecté ou pas, bien entendu. C'est ce qui intéresse au premier chef, les mamans et les papas. Donc en fait, il y aura une petite prise de sang à la naissance pour voir si le bébé est négatif. Il y aura une petite prise de sang à 1 mois, 3 mois, 6 mois. Dans cette prise de sang, on recherche directement le virus et pas les anticorps. Ce n'est pas un test de dépistage classique. Si ces tests sont négatifs, que la maman n'allaite pas ou prend son traitement, le bébé sera négatif. Et on le contrôle à vie. Et on le contrôle à 18 mois, une dernière fois.
Ouais.
Et l'immense majorité des bébés nés en France aujourd'hui sont négatifs avec ce système de surveillance.
D'accord. Alors, les médecins déconseillent aux mères séropositives d'allaiter. Pourquoi ?
Alors, on est dans une question importante. L'allaitement, on sait que c'est un facteur de transmission du VIH. Je vous dis depuis tout à l'heure, si la maman est traitée, que sa charge virale est indétectable, elle ne va pas transmettre à son bébé, elle ne va pas transmettre lors des rapports sexuels. Alors immédiatement, on se dit, elle ne va pas non plus transmettre par allaitement. Or, il se trouve, si la femme est obligée d'allaiter, on sait, dans certaines régions du monde, dans certaines familles, dans certaines situations.
Merci de le prendre en considération.
Si la femme est obligée d'allaiter pour toutes ces considérations qui mériteraient une émission à elle seule,
ouais, mais
on va dire comme ça,
ouais.
Il faut absolument qu'elle prenne son traitement correctement pour réduire considérablement le taux de transmission. En gros, le taux de transmission de l'allaitement, si on ne fait rien, il est d'1% par mois. Ça fait, vous voyez, si vous allaitez un an ou 6 mois, ça fait 6%, 12%, c'est beaucoup.
Ouais.
C'est beaucoup. Sous traitement, c'est beaucoup moins. Mais toutes les études qui ont été menées bien sûr en Afrique, pas en France où les femmes n'allaient pas, montrent qu'on n'est jamais à zéro transmission. Et donc, en France, vous voyez, il y a deux niveaux.
Dans d'autres pays, c'est...
En France, on dit le bébé est né négatif. Avec tout le travail qu'a fait la maman, l'équipe médicale. Est-ce qu'on prend ce petit risque d'1% ou est-ce qu'on le prend pas? Vous voyez, c'est un peu cette situation-là, alors que l'allaitement artificiel est totalement maîtrisé dans notre pays. On souhaiterait que les mamans allaitent, mais à ce moment-là, on n'est plus dans zéro transmission comme on l'était à la naissance du bébé. Donc c'est un choix un peu délicat et à adapter à chaque personne.
Oui.
En tout cas, si la maman allaite, il faut qu'elle soit traitée.
Oui.
Malgré ça, on a des données récentes qui montrent que beaucoup de mamans arrêtent leur traitement après l'accouchement et remettent leur bébé en danger. Donc si on pense uniquement au bébé, il est logique dans des pays où l'allaitement artificiel est possible, ça aussi c'est une limite à ce que je propose là,
oui.
Il est difficile de proposer un allaitement maternel, puisqu'on n'a pas zéro risque et que notre objectif, c'est quand même une maman contrôlée et un bébé non infecté. Donc on est sur un terrain un peu difficile.
Oui.
On peut adapter à chaque individualité. Et l'autre point un peu scientifique, c'est que même si la charge virale de la maman est indétectable, il y a des cellules dans le lait qui peuvent transmettre aussi.
D'accord.
Donc on est dans des taux de transmission très faibles, mais c'est un peu l'objectif. Si on veut zéro, c'est mieux de ne pas allaiter. Si on accepte un petit taux de transmission, on peut laisser allaiter, mais il faut traiter. Et si vous allaitez et que vous arrêtez le traitement, c'est très dangereux en termes de transmission pour le bébé. C'est ça qu'il faut retenir.
Alors, en gros, tout ce qu'on vient de dire là, ça veut dire que ces femmes qui sont malades peuvent avoir ce désir d'enfant. C'est possible lorsque elles sont bien suivies. C'est pour ça qu'il est important de parler de communication avec le
Absolument.
Médecin, de bien prendre son temps, de se poser les bonnes questions et d'avoir toutes les informations pour bien savoir où l'on va. Donc, voilà, c'est important de bien parler, de bien discuter avec son médecin.
Absolument, ça fait partie du suivi d'une jeune femme infectée par le VIH, s'occuper du conjoint, s'occuper du désir de grossesse. Alors, il faut quand même parler d'une chose, c'est les femmes infertiles. Hein, nous avons de plus en plus de demandes de femmes infectées par le VIH qui sont bien suivies, bien contrôlées,
oui.
et à qui on a dit qu'elles pouvaient faire un enfant sans aide médicale, simplement avec leur traitement,
oui.
et qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et on se retrouve dans la situation de femmes, souvent autour de la quarantaine d'ailleurs, un peu trop tard. Hein. Si c'est votre cas, il faut vous signaler bien avant pour qu'on puisse vous aider en aide médicale à la procréation. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez accès à l'aide médicale à la procréation dans certains centres habilités à ce qu'on appelle le risque viral, hein, parce que le virus, quand même, il faut s'en occuper, on ne fait pas n'importe quoi. Vous avez accès à l'aide médicale à la procréation à condition d'être dans les bonnes conditions. Et donc, il faut signaler le plus tôt possible par rapport à votre âge, par exemple, une situation d'infertilité. Sinon, la prise en charge risque d'être un peu frustrante. Vous risquez d'arriver devant des médecins qui vous disent « c'est trop tard, madame, il y a 10 ans, on aurait pu vous aider, aujourd'hui, on ne peut pas parce que ceci, cela ». Donc, c'est important d'en parler, comme vous le dites, et d'en parler à n'importe qui, au psychologue, à l'infirmière,
oui.
Au médecin. Il faut qu'on sache, cette femme, elle est suivie, elle est traitée, tout va bien, mais elle veut un enfant, travaillons pour que ça se passe bien.
Alors, nous allons écouter la deuxième partie du témoignage et on se retrouve juste après, docteur.
Vous avez été super bien suivi, bien traité
oui.
en France.
C'est une chose qu'en Italie, je n'ai pas vécu. Ici en France, seulement à l'hôpital de La Fontaine. J'ai aimé. Que ce soit à l'hôpital ou tout le monde ensemble, ça, j'ai aimé.
Ouais.
J'ai aimé. Oh, ma psychologue, elle est tellement bien. Je t'en prie, elle m'appelle. J'ai dit merci pour le soutien, l'attention qu'ils m'ont prêtée. Voilà. Si là, je suis forte, que je suis là à parler comme ça, c'est grâce au comité des femmes. On fait une activité de projet grand sœur.
Oui.
Donc, moi, je sensibilise beaucoup les filles. On va dans les hôpitaux, on leur porte le soutien parce qu'à l'époque, nous, on n'a pas eu ça. Donc, moi, je partage mon expérience avec d'autres filles, les nouvelles, pour leur dire de rester tranquilles. Leurs enfants ne seront pas malades, elles seront bien traitées, elles vont bien accoucher, tout ça. Moi, j'ai accepté à ce qu'on fasse des recherches, moi, beaucoup,
oui.
parce que je voulais aller à fond dans ce truc. Je dis à tout le monde que le VIH, c'est pas seulement en Afrique. Et aussi, quand on a le VIH, c'est pas la fin du monde. On peut tout faire.
On peut avoir des enfants.
On peut avoir des enfants.
Avoir des rapports sexuels.
On peut avoir des... Bon, si on est bien traité, on prend bien son traitement, on est indétectable pendant 6 mois, qu'on prend bien son traitement, respecté, on peut avoir des rapports sexuels non protégés.
Mm-hmm.
Ça cause aucun problème. Un conseil aussi de ne pas sortir avec les gens n'importe comment. Les gens qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas le charge viral, même n'importe qui. Mais de connaître une personne, c'est mieux d'utiliser le préservatif.
Alors l'importance aussi des ONG, des associations qui apportent du soutien à ces femmes, qui les accompagnent aussi, docteur.
Ça, c'est formidable ce témoignage parce qu'on voit cette femme qui a bénéficié d'une prise en charge. C'est à Saint-Denis, hein, c'est à l'hôpital de
ouais.
Saint-Denis, et on sait comment on travaille dans ces hôpitaux-là, c'est-à-dire en équipe, qui a bénéficié de cette prise en charge et qui va acquérir des connaissances et qui va transmettre. Et ça, c'est formidable. Je vous disais tout à l'heure, il faut lutter contre l'image et le désespoir, etc. Et cette femme, elle raconte son histoire, elle a appris des choses, on voit qu'elle a des connaissances sur le traitement, etc.
Ouais.
Ça, c'est formidable, et elle transmet. Et elle transmet par un biais associatif. C'est la meilleure façon de gagner cette bataille, c'est que les gens puissent se parler entre eux, entre ce que vous voulez, mais qui n'est pas un grand professeur avec une blouse blanche qui assène des vérités. C'est comme ça que ça va marcher. Ça, l'autotest, enfin beaucoup de choses qui peuvent se faire en dehors du milieu hospitalier, mais grâce à l'organisation qu'on a eue avant. Et donc ça, c'est vraiment, c'est très émouvant pour nous.
Vous pouvez vous rapprocher de certaines associations comme le comité des familles, c'est dans
Bien
le 18e
sûr.
Arrondissement de Paris. L'ARCAT également dans le 20e et l'association Icambéré qu'on a reçue d'ailleurs la saison dernière, c'est dans le 93 à Saint-Denis. Toutes les informations sur les liens de la radio africaine dans quelques minutes. Il reste une petite minute justement, docteur. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour terminer ?
Eh bien que cette histoire d'association, c'est vrai partout dans le monde. Là, j'étais au Mali il n'y a pas longtemps. Hein. Les femmes enceintes ont des causeries. où elles parlent entre elles de tous les problèmes,
oui,
avec un médiateur qui est quelqu'un qui a le VIH, mais qui est, comme cette dame dont on vient d'entendre parler, a des connaissances et peut partager, peut rassurer, peut alerter, etc. Et donc on y arrivera comme ça, par un tissu de connaissances, de recherches, ça c'est notre travail à l'hôpital, mais aussi de transmission d'accès par tous ces projets qui sont en dehors des structures de soins et qui vont permettre de toucher un maximum de gens dans cet objectif de santé de la maman, de l'enfant et du papa.
Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler.
Absolument.
Prochainement. Merci beaucoup, docteur Roland Tubiana. Je vous rappelle que vous êtes infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, également président de l'ONG SOLTIS, ONG de solidarité internationale. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de la radio africaine. C'est la petite pause Ambiance Africa. Continue juste après, bougez pas. Super.